Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Alors dans cette chronique du Pays Toulousain, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Florian Gallon. Bonjour M. Gallon.
Bonjour Sébastien. Et bonjour Aline.
Et vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et puis vous venez nous entretenir d'un événement assez méconnu, 721, les Sarrasins aux portes de la ville de Toulouse.
Alors c'est un événement qui, c'est vrai, Sébastien vient de le dire, est un peu méconnu. Enfin, il n'est pas dans le récit national, on va dire, et peut-être pas d'ailleurs dans le récit local non plus. Et vous allez vraiment nous expliquer pourquoi. D'abord nous dire quel est le contexte dans lequel se passe, ou qui a déclenché cet événement et dans lequel il se passe.
Alors le contexte, il est double, on dirait aujourd'hui. Il est à la fois régional et international. Premièrement, sur le plan international, on est dans le grand mouvement d'expansion de l'islam qui remonte au 7e siècle. Ils sont partis de la péninsule arabe. Ils arrivent dans la péninsule ibérique et puis ils poursuivent un petit peu encore vers le nord, au-delà des Pyrénées. En 719, les musulmans venus de la péninsule ibérique, ce qu'on appelle Al-Andalus, ont pris Narbonne et ils continuent leur marche en avant. Ils se retrouvent en 721, probablement au mois de avril, mai 721, devant les portes de la ville, devant les murailles de Toulouse. Ça, c'est le contexte international, un peu global. Et puis un contexte régional. Par ailleurs, on est dans une période un peu de crise de succession dans le royaume France, qu'on appelle le royaume mérovingien. Il y a des querelles entre clans aristocratiques. D'un côté en particulier Charles Martel, qui est celui qui va finir par triompher dans les années 720-730.
C'est l'homme de pouvoir.
Un homme de pouvoir important, il est maire du palais, c'est lui qui tient vraiment les leviers du pouvoir dans le royaume franc. Il y a toujours des rois mérovingiens, mais qui sont faibles.
Mais qui sont finissants, on va dire.
Et puis, face à lui, plusieurs grands rivaux aristocratiques, et en particulier dans le sud-ouest du royaume mérovingien, Eudes d'Aquitaine, qui est doux, nous disent les textes latins, c'est-à-dire chef de guerre, on traduit parfois ça par duc. On est dans ce double contexte-là.
Et est-ce que, revenons à la prise de Narbonne, c'est un ancien territoire wisigothique? C'était encore un territoire wisigothique à cette époque-là?
Absolument, oui. Les musulmans sont arrivés en franchissant le détroit de Gibraltar par le sud dans le royaume des Wisigoths, qui était installé là depuis plus de deux siècles et demi. Ils font très rapidement, en l'espace de quelques années, la conquête du royaume wisigothique d'Espagne, qui avait sa capitale à Tolède, mais il y avait une espèce de poste avancé du royaume wisigothique au nord des Pyrénées, dans ce qu'on appelle à cette époque la Septimanie, ou de la Narbonnaise, dont Narbonne fait partie. Donc quand les musulmans prennent Narbonne en 719, ils la prennent aux Wisigoths, pas aux Francs.
Ah oui, oui, oui. Oui, ça, c'est une précision très, 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 très importante. D'autant que la Toulouse wisigothe, elle a assez bien repéré, y compris dans l'éviction qui l'a amenée vers l'Espagne. Et quels sont les partis en présence? Vous venez de les évoquer, le duc Eudes, et puis son adversaire, qui est-ce?
Alors son adversaire, c'est celui qui est à ce moment-là gouverneur d'Al-Andalus, c'est-à-dire de la province islamique d'Espagne, on pourrait dire, un certain Al-Samha, qui vient à la tête d'une armée probablement importante. On ne sait pas exactement d'où ils sont partis, peut-être de Narbonne, ou peut-être ont-ils franchi les Pyrénées. Une armée importante, en tout cas, qui, au printemps 721, installe un siège devant Toulouse avec l'intention manifeste de s'emparer de la ville. Et face à cette armée arabo-berbère, en réalité venu d'Al-Andalus, eh bien le duc Eudes d'Aquitaine s'arrange comme il le peut pour réunir une armée de secours. Lui n'était pas enfermé dans Toulouse au moment où le siège a été installé, donc il peut réunir cette armée de secours et il se présente au début du mois de juin devant la ville de Toulouse pour essayer de la dégager de ce siège qui dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être.
La ville de Toulouse qui est encore entourée par ses murailles.
Absolument, oui, c'est la vieille muraille gallo-romaine de briques, pour l'essentiel, probablement suffisamment entretenue pour tenir face à un siège important. C'est l'une des plus amples murailles qui ait compté la Gaule romaine, et manifestement, elle permet d'assurer encore la défense de la ville.
On a une idée du nombre de soldats qui sont autour des murailles?
Alors, c'est très difficile à estimer. On a des chiffres, mais absolument fantaisistes, qui nous sont donnés par l'une des toutes premières sources qui nous parle de l'événement, dès les années 720, tout début des années 730. C'est un extrait d'un ouvrage qu'on appelle le Liber Pontificalis, le Livre des Papes, une série de biographies des papes qui a été commencée au VIe siècle, qui se poursuit de pontificat en pontificat. Et dans ce Livre des Papes, la bataille de Toulouse de 721 est rapidement mentionnée. On nous parle de 175 000 morts du côté musulman et 1500 morts seulement côté franc. Alors les 1500 morts côté franc, c'est tout à fait vraisemblable. Les 175 000, c'est évidemment une importante amplification. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a certainement plusieurs milliers d'hommes, peut-être une dizaine de milliers d'hommes, 15, 20 000 hommes grand maximum de chaque côté. Mais c'est une bataille importante pour cette époque.
Et est-ce que le siège dure longtemps?
Alors ça en a assez
d'après
peu
les sources,
assez peu de
avoir
moyens pour en estimer précisément la durée. On a des dates qui sont données par les historiens arabes, mais assez tard, assez longtemps après les événements. Ils nous parlent d'une bataille qui a lieu le 9 juin 721. Ça, c'est celle qui véritablement met aux prises, mais en terrain dégagé, devant Toulouse, le duc Eudes d'Aquitaine à la tête de son armée de secours et puis l'armée assiégeante conduite par cet émir ou gouverneur Al-Samah. Ensuite, depuis quand est-ce que les musulmans sont devant Toulouse ? Peut-être depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril. En tout cas, ils ne se sont pas mis en branle en plein hiver. Donc, on peut imaginer qu'ils ont attendu le début des beaux jours, le début du printemps, pour entreprendre cette vaste campagne et ce siège promis à durer. 2 mois, 3 mois peut-être.
Et donc, c'est une bataille dont les enjeux sont doubles. Des enjeux politiques et des enjeux de territoire. Et puis, un enjeu religieux.
Alors, des enjeux politico-territoriaux, à l'évidence. On est encore dans une dynamique d'expansion, dans une dynamique de conquête. Les armées arabo-berbères ont pris quelques mois, quelques années plus tôt, 2 ans plus tôt, Narbonne. Ils cherchent à continuer à s'étendre vers le nord et vers l'ouest. Donc, il y a un enjeu politique dont parle bien, un enjeu territorial dont parlent bien les premières sources, là encore. Ce même livre des papes que j'évoquais à l'instant, il dit que les musulmans ont mis le siège de Toulouse pour occuper ce qu'il appelle les Francis, c'est-à-dire la Gaule franque. L'enjeu religieux, il est plus difficile à saisir. Ce qui est évident, c'est que d'un côté, on a des armées chrétiennes, le royaume franc est chrétien depuis la conversion de Clovis au début du VIe siècle, et puis de l'autre, des armées musulmanes. Est-ce que ces deux armées s'affrontent pour des motifs religieux? Ça, on ne le voit pas en réalité, ou très très peu dans les sources. Il y a quand même l'idée selon laquelle le pape qui intervient à ce moment-là, voit un petit peu le duc Eudes d'Aquitaine comme quelque chose, comme un rempart de la chrétienté. Il lui envoie une lettre pour lui témoigner de son soutien. Avec cette lettre, il lui envoie des éponges liturgiques en signe de soutien et de protection. Donc, le pape, lui, en tout cas, il met quelque chose comme un enjeu religieux. Du côté d'Eudes d'Aquitaine et des Francs, c'est beaucoup moins évident.
Oui, oui. Et en réalité, l'Église fera beaucoup plus tard, avec Charlemagne, un petit peu cette progression aussi à la fois territoriale et quand même d'expansion de la chrétienté aussi.
Alors Charlemagne, il se lance évidemment en différentes directions dans des campagnes d'expansion qui vont donner forme à ce qu'on appelle l'Empire carolingien, et ça s'accompagne d'entreprises de christianisation, en particulier du côté de la Saxe et des Saxons, la conversion forcée, très dure, des Saxons. Quand il s'étend un petit peu au sud des Pyrénées jusqu'à prendre Barcelone au début du 9e siècle, là l'enjeu religieux, il n'est pas si évident non plus. Il y a une volonté de protéger son empire, de se donner une espèce de marche frontalière. Mais ce qui est mis au premier plan, c'est cette dimension géopolitique, pas tellement l'adversité de l'islam.
Oui, 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 ça c'est une notion. Alors, pour rester un petit peu sur le plan religieux, et là on va en revenir au récit, qui est un récit toulousain, et qui est Saint-Exupère, qui est devenu le saint patron de la ville, puisqu'on lui attribue le pouvoir d'avoir stoppé l'avancée des morts et d'avoir permis au siège de Toulouse d'avoir une issue favorable pour les Aquitains.
Alors il y a effectivement...
Est-ce que c'est un récit ? Oui, ça peut.
Il y a une récupération tardive dans les textes hagiographiques. On voit ça émerger à partir de la fin du XIe siècle. Et puis ensuite, ça se développe dans différentes traditions, différents textes. Une espèce de récupération mémorielle, mais très déformée, très détournée de cet événement qui a quand même évidemment été marquant dans l'histoire de la ville. Toulouse assiégée par les musulmans. Et puis finalement, une victoire du duc Eudes d'Aquitaine. Il y a des réécritures qui se font progressivement, d'abord plutôt dans les chroniques, dans les œuvres d'histoire, dès le 8e siècle, on voit ça, et puis progressivement, les choses se déforment, sont récupérées dans d'autres genres littéraires, en particulier ce qu'on appelle l'hagiographie, la vie des saints, et donc l'exemple que vous donnez fait partie de ces formes de captation et de réorientation de la mémoire d'un événement marquant dans l'histoire de la ville.
Et alors, pourquoi dans le récit national, la bataille de Toulouse, qui est quand même très importante, parce que c'est le premier affrontement entre les morts et puis le royaume franc. Pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu ?
Alors, ça relève d'enjeux politiques locaux et, disons, à l'échelle du royaume franc. Il y a cette rivalité entre Eudes d'Aquitaine et Charles Martel, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Charles Martel, il a obtenu un grand succès face aux musulmans. C'est la bataille beaucoup plus connue de Poitiers de 732. Dans cette rivalité entre les deux personnages, il y a un vainqueur au bout du compte et un vaincu. Le vainqueur, c'est Charles Martel.
Oui.
Le vaincu, c'est Eudes d'Aquitaine.
Oui, oui.
Et comme souvent, l'histoire est écrite ou réécrite par le vainqueur. On se souvient du triomphe du vainqueur parce qu'il a derrière lui toute une machinerie de propagande qui lui permet de faire valoir ses propres succès. On se souvient du succès du vainqueur, Poitiers 732. On oublie ce qui avait été un succès au moins aussi important, celui du vaincu, Eudes d'Aquitaine.
Eh bien, merci d'avoir remis à sa place cette très importante bataille. Et je vais repasser la parole à Sébastien pour parler de votre ouvrage.
Oui, et on peut lire M. Florian Gallant, 721 Les Sarrasins aux portes de la ville, justement sur cet événement. Dans cette collection de petits formats, cette année-là à Toulouse, aux éditions Midi-Pyrénéennes. Merci M. Gallant.
Merci à vous.
Et bonne semaine.
Merci.